France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Ce sera donc le couvre-feu pour un mois au moins et à dater de samedi pour toute l'Île-de-France et 8 métropoles françaises, soit 20 millions de personnes. C'est la principale annonce délivrée hier par Emmanuel Macron qui estime qu'elle pourra permettre de baisser le nombre de contaminations quotidiennes. Des amendes de 135 € seront dressées en cas de non-respect du couvre-feu et des dérogations seront accordées pour les travailleurs de nuit. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 100 morts ont été enregistrés ces dernières 24 heures. 193 personnes ont été admises en réanimation. Autre mesure annoncée par le chef de l'État, une aide exceptionnelle de 150 € plus 100 € par enfant pour les allocataires des APL et du RSA. La crise a fait basculer en effet dans la pauvreté des centaines de milliers de personnes. Le discours présidentiel et plus précisément l'annonce du couvre-feu ont engendré de nombreuses réactions négatives dans des milieux déjà bien affaiblis et qui seront particulièrement touchés par cette mesure, celui du spectacle vivant et du cinéma et celui des cafés et de la restauration. Pas de nouvelles mesures pour ces secteurs qui resteront éligibles au système du chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année. Ailleurs qu'en France, la situation sanitaire n'est pas forcément meilleure. Ainsi, la Catalogne a décidé de fermer tous ses bars et restaurants pendant 15 jours, décision qui intervient après le bouclage partiel de la capitale espagnole, Madrid. Et c'est dans ce contexte qu'est organisée ce jeudi en France une journée de mobilisation et de grève nationale dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social à l'appel de la CGT Sud et de plusieurs collectifs pour dénoncer encore et toujours le mal-être des salariés du secteur. Enfin, l'actualité internationale, c'est également ce sommet à Bruxelles aujourd'hui sur la relation post-Brexit entre l'Europe et le Royaume-Uni. Un sommet prévu sur 2 jours alors que pour l'instant les discussions sont enlisées. Les deux parties s'accusent mutuellement d'encourager un no deal.
De grandes dates et des faits quotidiens, le cours de l'histoire sur France Culture, Xavier Mauduit.
Qu'en est-il du travail à domicile avant l'ère du télétravail? Les paysans, s'ils ne sont pas dans les champs, fabriquent des couteaux, des horloges, du tissu. Ainsi, des paysans hors champ aux moines en bleu de travail et des aristocrates au labeur jusqu'au travail invisible des femmes au foyer. Cette semaine, c'est une histoire du travail à domicile.
Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h05 sur France Culture et sur franceculture.fr.
Здравствуйте. С вами говорит инженер атомной энергетики Григорий Медведев.
Elle mène le combat littéraire et politique avec un courage exemplaire. En soutien à l'écrivaine et prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, en première ligne aujourd'hui dans la contestation en Biélorussie, France Culture vous propose un cycle consacré à son œuvre. Il se poursuit avec la supplication.
Чернобыльская молитва.
Comme dans tous ses livres, elle y recueille la parole des survivants. La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse, de Svetlana Alexievitch, le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Très bon réveil, il est 6h03 sur France Culture, l'heure du monde des vivants. Et ce matin, Bruno David, vous nous parlez de la peste noire dans la France du XIVe siècle.
Strasbourg, 14 février 1349, jour de la Saint-Valentin. 2000 juifs, arrêtés la veille, vont être brûlés vifs. Les bûchers vont durer 6 jours. Mais prenons un peu de recul. Depuis le printemps 1348, la France et le Saint-Empire sont traversés par une vague de pogroms. C'est par centaines qu'on envoie des juifs au bûcher, à Bâle, Fribourg, Erfurt, Mayence, Chambéry. On les accuse de la catastrophe en cours. Quelle catastrophe ! L'Europe est décimée par un mal nouveau, atroce, qui n'épargne ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni les riches, ni les pauvres, ni même les ecclésiastiques. On appelle ce mal la grande pestilence, la grande mortalité, la maladie des bosses, et plus rarement, peste universelle. Les juifs sont tenus pour coupables, ils empoisonneraient les puits. Mais on brûle aussi les lépreux, les sorcières, les mendiants. L'agressivité est même tournée contre soi avec des processions de flagellants. Pendant ce temps, les fosses communes se remplissent à la périphérie des villes qui se vident. Les porteurs de mort, les médecins et le clergé se font rares. La population est désemparée. Et il y a de quoi. Entre 1347 et 1352, celle qui sera appelée la peste noire tue entre 30% et 50% des Européens. La petite commune rurale de Givry en Bourgogne comptera 630 morts pendant le seul été 1348. La France perdra près de la moitié de sa population entre 1340 et 1440. La guerre de 100 ans n'y est pour rien. Elle aura fait quelques milliers de morts en 100 ans, la peste des millions de victimes. On sait aujourd'hui que l'origine de ce mal est une E-bactérie du groupe des entérobactéries, Yersinia pestis. Yersinia est un colibacille de 1 à 3 millièmes de millimètre. Mais pour comprendre l'origine de la pandémie humaine du XIVe siècle, il faut faire intervenir d'autres acteurs. Les puces et les poux, insectes qui se nourrissent du sang des mammifères et qui sont vecteurs de la bactérie sans en être victimes, et surtout les rats, très sensibles aux bacilles pesteux et qui surtout transportent les puces. Le pogrom de Strasbourg est doublement pathétique. Pourquoi ? Parce que début février 1349, la peste n'est pas encore arrivée en ville. Ce qui arrive en ville, c'est la rumeur selon laquelle plusieurs cités allemandes sont déjà touchées. Les nobles, les bourgeois, mais aussi les évêques, exploitèrent la panique de la population pour accuser les juifs de la peste qui sévissait au loin. La mesure était donc préventive. Enfin, pas que. Car elle a permis à tous les allumeurs de bûchers de se libérer des dettes contractées auprès des juifs qui, souvent confrontés à l'interdiction de pratiquer d'autres métiers, exerçaient le rôle de prêteurs. Activité qui rend service, mais qui attire aussi l'hostilité. Le bacille permit aux bons strasbourgeois, enfin à ceux qui survécurent à la peste, non seulement de se débarrasser de leurs dettes, mais en plus de s'enrichir en s'appropriant le bien des juifs. Yersinia pestis avait bon dos.
Matière grise et café noir, 6h-7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier album de HK et les Saltimbanques qui vient de sortir, le 7e déjà. 12 nouvelles chansons engagées et joyeuses. Et on commence par Petite Terre.
Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, tu as grandi dans ce gigantesque univers, à l'endroit précis où le gris se colore de bleu et de vert. Que fais-tu là, c'est incroyable. Petite fleur en plein désert, et nous voilà dans cette fable, enfant de la terre nourricière. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, petite toux, petite fièvre de rien du tout, c'est ce que les humains te disent pour s'affranchir de leurs bêtises. Nous avons brisé l'équilibre quand nous nous sommes accaparés tout ce qui respire et qui vibre sans jamais penser à l'après. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître, petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Et aujourd'hui avec HK et les Saltimbanques à l'occasion de la sortie de leur dernier album, Petite Terre. Bonjour HK, vous êtes avec nous, mais à distance, chez vous, à Bergerac, en quarantaine préventive, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, j'attends, a priori tout va bien se passer, mais j'attends le résultat de mon test qui va arriver d'un instant à l'autre. Là, je scrute ma boîte mail, voilà, j'ai été contact de quelqu'un qui l'a eu, mais... mais qui va bien, donc bon, ça va.
HK, dans ce disque, on s'aperçoit que, en plus d'être poète, militant, vous êtes devenu écolo.
Ouais, bah, j'ai toujours été, en tout cas depuis pas mal de temps. Peut-être depuis le jour où je suis devenu papa. Je pense que c'est un changement pour nous tous à ce moment-là où on se dit mais quelle planète, quelle maison va-t-on laisser à nos enfants ?
Sauf que dans cet album, c'est revendiqué dès le début, Petite Terre.
Oui, c'est ça. C'est vraiment le point de départ de cet album. Et c'est au moment où on est confiné chez nous, on peut pas passer les frontières, où on se dit voilà, c'est cette planète-là qui aujourd'hui est notre maison commune. C'est là où on est né, c'est là où on est grandi, c'est là où voilà nos ancêtres, et on est des enfants de la terre. C'est par quoi on commence, quoi.
Pendant le confinement, vous avez donc écrit ces chansons pour ce 7e album de HK et les Saltimbanques, ainsi qu'un livre édité par Rive Neuve qui a pour titre « Sans haine, sans armes, sans violence ». Le mot que l'on puisse dire, c'est que ça a été pour vous un moment de réflexion, que ce confinement qu'on a vécu au printemps, HK.
Oui, c'est ça. Nous, on était, en tant que musiciens, saltimbanques, raconteurs d'histoire, on était triplement frustrés. Alors, c'est sûr qu'il y a la situation gravissime et qui touche tout le monde, et socialement, humainement. Et c'est vrai que c'était aussi un moment où nous, on avait plein de choses à dire et pas l'occasion de le dire aussi. On avait cette parole qu'on a l'habitude de porter sur scène, notamment ces moments de partage qu'on a l'habitude d'avoir avec les gens. On en a été privés. Et puis même aujourd'hui, c'est compliqué. Beaucoup de concerts sont reportés ou annulés. Et donc du coup, c'est aussi un moment où je me suis dit, mais et pourtant, la musique, l'art, la culture et cette parole-là n'ont jamais été aussi importantes. Et c'est pour ça qu'on a fait en sorte de finir de produire cet album pendant le confinement, chacun chez soi. On a fini d'enregistrer nos parties et on a vraiment tenu à le partager, et ce livre aussi, voilà, j'ai vraiment tenu à partager cette histoire.
Comment vous avez travaillé à distance avec vos musiciens, Kadour Hadadi, puisque vous êtes le leader, vous êtes le HK, HK et les Saltimbanques, vous avez travaillé comment?
C'est assez compliqué au début parce que vraiment on s'est vite senti comme dans une impasse, et puis après on a pris très concrètement on a fait le point de la situation, voilà, qui avait quoi chez lui ou chez elle pour s'enregistrer. Ce qui a conduit par exemple à une copine choriste à enregistrer avec le micro de son téléphone quand même, et donc il y a eu quand même des prouesses technologiques. Il y a eu aussi des moments de conférences, de visioconférences aussi. On n'y a pas coupé, nous non plus, où on se disait, comment on va aborder telle musique, telle mélodie. La base musicale avait déjà été posée, donc ça nous a bien aidé, mais il restait quand même beaucoup de travail, et c'est vrai que, il y a eu de l'acharnement, de la volonté, vraiment, on avait tous envie d'aller au bout de cette histoire-là, et on avait vraiment, le jour où on a tenu cet album-là, Petite Terre, dans les mains, on s'est dit, mais on l'a fait, quoi.
C'est parti d'abord avec les mots, les paroles que vous écrivez, HK?
Ouais, c'est ça, généralement, c'est une idée d'une chanson, un refrain, un petit air, comme là par exemple quand on écoutait Petite Terre, cette idée-là, et puis après on se retrouve avec l'ensemble des copains et on se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, où ça peut nous amener, cette petite mélodie, ce petit refrain.
Quels instruments choisir,
chacune rapporte son univers.
Dans Petite Terre, j'ai l'impression que vous avez perdu votre accent ch'ti, HK.
Non, c'est pas vrai, c'est faux.
Oui,
je nie en bloc.
En revanche, il y a d'autres parfums. Le parfum de l'Occitanie est très présent dans cet album. Mais ça fait combien de temps que vous êtes à Bergerac?
Ah, moi, ça fait 10 ans que je suis à Bergerac. Et je l'écris bien dans la chanson Le Roubaisien de Bergerac, où vraiment je renie pas et je renierai jamais, évidemment, mes racines ch'ti. Et puis et cette ville, Roubaix, qui est une ville monde d'ailleurs, c'est drôle parce que l'album s'appelle Petite Terre. Notre premier album s'appelait Citoyen du Monde, et le citoyen du monde, c'est le citoyen de Roubaix, donc c'est vraiment une ville monde. Et là, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai vécu pendant 35 ans. Et puis après, à un moment donné, voilà, la vie a fait que j'ai voulu émigrer, entre guillemets, à Bergerac, voilà, en Périgord, et dans ce petit bout de Dordogne. Et je le raconte dans cette chanson-là, comment je suis à la fois toujours roubaisien et à la fois profondément bergeracois aujourd'hui.
Et puis, il y a aussi l'Occitanie, ces langues, ces cultures du terroir que vous découvrez et que vous mettez vraiment en avant dans cet album.
C'est la France, j'allais dire c'est le monde, mais c'est la France monde et c'est le monde France. Enfin, c'est quand à un moment donné, des histoires et des cultures millénaires sont là parmi nous et qu'on les oublie avec le temps. Et c'est, moi, je trouve ça dur et triste parce que c'est une si belle langue, la langue occitane. C'est une si belle culture et même quand on parle musicalement, moi qui suis musicien, de voir ces musiques-là. Et pareil quand on parle de la langue bretonne et de la culture musicale notamment. Moi, c'est toujours la porte d'entrée, c'est toujours la musique, mais qui nous renvoie vers des cultures millénaires et basque aussi. Il y a une chanson qui s'appelle Le Chant des artisans qui rend hommage aux artisans de la paix, aux gens qui font la promotion du processus de paix au Pays Basque. Et voilà, ce sont à la fois des langues, des histoires, des cultures extraordinaires. Alors pour ce qui est de la Bretagne, parce qu'il y a une chanson berbère ou breton, donc c'est marrant parce que moi qui suis d'origine algérienne, kabyle, il y a des musiques kabyles et des rythmes kabyles qui sont vraiment, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau avec des musiques et des rythmes bretons et même des sonorités, même des instruments. Si bien que évidemment on se dit bah oui, il y a eu des migrations multiples des deux côtés pendant des millénaires, mais on ne sait pas par où ça a commencé, on ne sait pas si nos ancêtres venaient d'Europe du Nord ou d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, qui de l'œuf ou de la poule, qui du berbère ou du breton.
Bah très bien, on va écouter cette chanson. D'ailleurs, dans cette chanson, vous le refrain le rappel, qu'il soit breton ou berbère, ce musicien étranger qui vient dans ce village de France, c'est quelqu'un qui plaît à tout le monde, mais la question de ses racines devient secondaire, alors que on est dans une culture ancestrale.
Oui, c'est ça. Je n'ai jamais posé la question de savoir s'il était berbère ou breton. Donc, on raconte toute l'histoire, tout ce moment de partage extraordinaire qu'on a vécu avec ce musicien qui venait, on ne sait pas d'où exactement, et on lui a jamais posé la question.
Là où se finit notre terre, je sondais l'océan debout sur une pierre. Les écrits nous avaient annoncé sa venue, et les druides anciens nous avaient prévenus. Au large de nos côtes, au soir d'une tempête, vous entendrez au loin le son d'une trompette. Il viendra s'échouer dans la baie du Grand Roc, sur un petit rafiot fait de briques et de brocs. Il venait de je ne sais quel bout du monde, avec son bignou et sa gouaille vagabonde. Je ne lui ai jamais posé la question, savoir s'il était berbère ou breton.
Mélanger de l'enfant en faire qu'une seule. Irmat à l'écoute, c'est l'amour de deux peuples.
Il n'avait pas l'habit des habitants du coin. Il était un peu fou, il était musicien. Avec sa gouaille de fortune, il n'était pas venu nous demander la lune. À l'abri des embruns, nous l'avons emmené. Jusqu'au petit matin, nous l'avons écouté chanter dans une langue venue d'une autre terre. Et nous dansons encore quand il reprit la mer. Il venait de je ne sais quel bout du monde, avec son bignou et sa gouaille vagabonde. Je ne lui ai jamais posé la question, savoir s'il était berbère ou breton.
Mélanger nos langues.
Est-ce qu'on entend un bignou HK dans cette chanson, berbère ou breton?
Non, on a même pas utilisé de bignou. On en parle sans l'utiliser, quel sacrilège. Et, bon, parce que on a fait la musique avec les musiciens du groupe. Par contre, il y a l'ami à la trompette qui s'est vraiment amusé à aller chercher des sons perchés et à l'accordéon aussi. On s'est amusé presque à l'imiter, quoi, à imiter le bignou. Ouais.
Quelles sont les langues que vous parlez, HK?
Oui. Véritablement, je ne parle qu'une langue, la langue française. Par contre, j'ai chanté dans plein de langues différentes, et ça, c'est vrai que c'est une vraie fierté, parce que bon, j'ai chanté en arabe, qui est ma langue maternelle, mais que je ne parle pas. en kabyle aussi. J'ai chanté évidemment en anglais, en espagnol, en occitan dans cet album, avec les copains basques en reprenant le refrain en basque. Il y a eu pas mal de langues dans lesquelles j'ai pu chanter. J'ai eu le grand plaisir de chanter et c'est vraiment une fierté parce que voilà ce que je disais dans ce premier album Citoyen du monde et même là dans Petite Terre, on est des enfants de cette petite terre. Je suis né en France, le destin a fait que je suis né en France, mais j'aurais pu naître ailleurs et je me reconnais dans d'autres gens ailleurs et j'aime cette idée d'internationalisme joyeux, engagé et humain.
Et qu'est-ce qui vous fait aimer une langue? C'est plutôt la musicalité de cette langue? C'est des rencontres ou c'est des œuvres d'art qui vous mènent à une histoire, à un pays, à une civilisation, à une langue? Ashka?
C'est tout ça à la fois. Pour moi, personnellement, souvent, c'est une rencontre. Voilà, c'est la rencontre de gens qui portent cette langue. Par exemple, dans cet album, quand on prend la chanson « L'automne occitan », et cette rencontre avec les Bombes de Bâle et Claude Sicre des Fabulous Troubadours, c'est vraiment une rencontre. Moi, j'écoutais leur album il y a de ça quelques années. Il y a une chanson magnifique qui s'appelait Laura Gay et il parlait justement de ces gens qui disaient voilà, il faut défendre votre langue, il faut défendre cette langue. Et le jour où j'ai eu le plaisir de rencontrer Claude Sicre et les copines des Bombes de Bâle, voilà, c'est vrai que c'est tu rentres tout de suite dans un univers passionnant. Et pour les copains du Pays Basque, c'est pareil. Quand je les ai rencontrés, quand ils m'ont sollicité pour participer artistiquement à cette idée de processus de paix au Pays Basque et de découvrir cette histoire millénaire, de découvrir leur combat et de voilà et d'aimer ces gens. Et donc, ben, évidemment, ça nous donne envie de comprendre qui ils sont et ça nous donne envie de comprendre pourquoi ils et elles sont nos sœurs et nos frères et pourquoi on a tellement à apprendre et aussi à donner, parce qu'on a aussi notre propre histoire et à partager, quoi.
Alors écoutez, Un automne occitan, c'est bien sûr dans votre dernier album, Petite Terre HK et les Saltimbanques, dans le Réveil culturel de France Culture.
Le Réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Les saisons, moi j'aime l'automne, quand pourpre l'horizon et que la poudre tonne, quand il pleut en plein jour des cordes de guitare et que des troubadours s'en viennent peupler nos trottoirs, quand le vent nous rapporte des nouvelles du ciel et que les feuilles mortes se découvrent des ailes, quand les chapeaux s'envolent si loin des convenances que même les parapluies s'élancent et entrent dans la danse.
Des fois qu'est buffant.
Les maisons, moi j'aime la tienne, quelle que soit la raison, pourvu que j'y revienne. Quand je te vois, paysanne occitane, travailler cette terre dans ton bout de campagne, quand je t'entends siffler à l'unisson avec les rouges-gorges, les merles et les pinsons, cette terre de rien venue d'un autre temps, l'air des matins d'automne porté par un vent d'automne.
Il y a tout à la fois le territoire, les cultures ancestrales, Bah, la nature très très présente dans Petite Terre, votre dernier album, l'album de HK et les Saltimbanques. Mais vous n'avez pas perdu pour autant votre côté militant, on ne lâche rien, n'est-ce pas HK? Puisqu'il y a aussi cette chanson où vous appelez au changement, quitte à ce que ce changement précède les grands changements, les grandes décisions politiques, HK.
Je suis de celles et de ceux qui pensent qu'aujourd'hui on a besoin de renouveler, revitaliser, peut-être même refonder notre démocratie aujourd'hui, pas que en France et aussi en Europe de l'Ouest. Et évidemment, c'est ce que je dis.
Vous continuez encore à dire l'Europe de l'Ouest.
Je continue à dire oui, c'est des noms communs, voilà. Mais c'était pas, j'allais dire, c'était pour englober la situation française, pour dire que ce n'est pas un problème seulement franco-français. Il y a besoin de revivifier la démocratie et l'ensemble des mouvements sociaux qu'on a pu connaître en France ces dernières années, notamment les Gilets jaunes, on peut les voir sous un certain angle qui nous dit des gens qui ont envie d'être acteurs quotidiens, en tout cas réguliers, qui ont envie d'être force de proposition, qui ont envie d'être force de création, d'imagination, qui ont envie de mettre en avant l'intelligence collective et qui pensent que le mythe du sauveur providentiel, de l'élu, du Messie qui viendrait tous les 5 ans, qui descendrait du ciel et qui dirait « Moi, président de la République, je sais », peut-être que ça, on en a peut-être fait le tour. Voilà, moi, je pense ça modestement, c'est l'analyse que je fais. Et la question que je me pose, c'est comment on peut arriver à ce changement et sans haine, sans armes et sans violence. Ça ramène avec ce
titre
livre que je sors en même temps que
oui,
l'album.
Rive-Neuve, où vous donnez la parole, où vous interprétez la parole de quelques Français confrontés d'abord à la situation économique actuelle, mais aussi à cette terrible épreuve qu'a été le confinement ce printemps. D'ailleurs, vous-même, vous attendez, je suppose, avec anxiété, HK, le résultat de vos tests, parce que vous devez être en concert, enfin, vous êtes censé être en concert à partir demain, dans la région parisienne, demain à Bondy, puis ensuite, ce sera Perfitte, Orly. Pour terminer, HK, qu'est-ce qui est pour vous le plus exaltant? C'est le fait que lorsque vous faites des concerts, et je vous ai beaucoup suivi ces dernières années, vous avez vraiment de très belle salle, c'est-à-dire que les gens maintenant vous connaissent, vous suivent, ou c'est plutôt ce qui se passe en dehors de la scène musicale, le fait que vos chansons soient repris par des manifestants qui sont plutôt pour un combat progressiste, pour ne pas dire de gauche ou d'extrême gauche. Je fais bien sûr
oui, progressiste.
Je fais bien sûr allusion à on lâche rien, bien sûr.
Qu'est-ce qui progressiste, solidaire, fraternel. J'aime beaucoup voilà mettre ces mots parce que c'est vrai que c'est important de dire. Pourquoi on se bat? Pour quelles valeurs et pour quels idéaux? La scène, c'est en plus en ce moment, on en est un peu sevré, on va dire. Voilà, il y a des concerts qu'on arrive à maintenir, mais beaucoup sont reportés ou annulés. La scène, c'est notre jardin, ça reste vraiment l'endroit où on fait du spectacle vivant et dedans il y a le mot vivant, donc où on se sent vivant, où nos musiques et nos mots, nos mélodies prennent vie dans le regard des gens, dans les attitudes, où on voit, où on ne peut pas tricher, où il y a quelque chose de magique. Après, c'est sûr que de faire des chansons qui, à un moment donné, résonnent dans un inconscient collectif et dans une époque, et c'est sûr que c'est quelque chose, c'est une vraie fierté aussi. Donc bon, voilà, c'est un peu tout ça qui fait que je suis le plus heureux des hommes et des saltimbanques à faire ce métier et en plus à y mettre un engagement.
Merci beaucoup, HK. Je rappelle, Adadi Kadour, HK et les Saltimbanques, donc, pour un nouvel album qui est sorti il y a 2 semaines, Petite Terre, et d'un ouvrage que vous publiez chez Rive-Neuve, sans haine, sans armes, sans violence. Merci beaucoup et j'espère que tout ira bien et qu'on vous verra sur scène très bientôt, cher HK.
Oui, moi aussi, je croise les doigts.
Allez.
Merci.
Bonne journée à vous.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Le débat public semble bien dégradé en France. Débattait-on mieux au XVIIIe siècle? La cancel culture ou culture de l'effacement importée des États-Unis va-t-elle s'imposer en France? Les débats dans les médias et sur les réseaux sociaux rencontrent-ils les préoccupations des citoyens? Et au fait, qu'est-ce qu'un vrai problème? Que faisons-nous du débat public? Journée spéciale avec philosophes, historiens, sociologues, journalistes, ce vendredi sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Deux concerts exceptionnels de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Les 22 et 30 octobre, à 20h, à l'Auditorium de Radio France. Laissez-vous emporter par la virtuosité des deux grands concertos pour violon de Béla Bartók et de deux grandes pages pour orchestre, la Symphonie de Franck et la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de Mikko Franck. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
France Culture, il est 6h30. Tout de suite, le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une annonce choc hier d'Emmanuel Macron, l'instauration d'un couvre-feu pour 8 métropoles et la région Île-de-France à partir de samedi. Seule façon, selon le chef d'État, de freiner la propagation du virus, dont les derniers chiffres révélés par Santé publique France sont alarmants. Nous ferons le point dans ce journal. Nous irons également en Biélorussie, où les manifestations ne faiblissent pas, malgré un durcissement net de la répression policière. Enfin, Bruxelles se prépare à un Conseil européen compliqué, où la question du Brexit sera une nouvelle fois abordée. Dans ce journal, nous irons à Ashford, dans le Kent, où un député conservateur réclame un accord face aux menaces de no deal. La mesure était attendue, mais elle a tout de même créé le choc. Le président de la République a donc annoncé hier la mise en place, à partir de ce vendredi minuit, d'un couvre-feu pour 20 millions de personnes, les habitants de l'Île-de-France et de 8 aires urbaines françaises. Hier soir sur France 2 et TF1, c'était la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprimait spécifiquement sur la crise sanitaire depuis le 14 juillet. L'objectif était de remobiliser les Français face à la progression du virus, dont les chiffres donnés hier par Santé publique France marque une forte aggravation, on va y revenir. Il fallait donc faire quelque chose et pour éviter à tout prix un reconfinement généralisé, c'est la mesure du couvre-feu qu'a choisi le chef de l'État. Retour sur ses propos avec Stéphane Robert.
Interdiction de sortir de 21h à 6h du matin, le couvre-feu entrera en vigueur samedi en Île-de-France ainsi que dans les métropoles de Lille, de Lyon, d'Aix-Marseille, de Montpellier, de Rouen, de Saint-Étienne, de Grenoble et de Toulouse. Il est programmé pour une période de 4 semaines mais plus vraisemblablement pour 6 semaines avec l'accord du Parlement. Après, on avisera, a expliqué Emmanuel Macron.
6 semaines, c'est le temps qui nous paraît utile. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à travailler, à ce que les écoles, les lycées, les universités soient ouvertes et fonctionnent, à ce qu'il puisse y avoir évidemment une vie sociale, mais en réduire les aspérités. Et au fond, ce qu'on veut surtout attraper, si j'ose dire, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les parties, les anniversaires, les moments de convivialité, on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus.
Le chef de l'État a dit être conscient qu'il y aura des conséquences économiques pour les bars, les restaurants, les salles de spectacle. Selon lui, il faudra essayer de faire en sorte, notamment dans les théâtres et les cinémas, que les gens s'y rendent plus tôt. Et puis il a promis que les mesures d'aide, en particulier le chômage partiel, seront réactivées pour ces secteurs. Il y aura également des autorisations spéciales pour le travail tardif, pour les services d'urgence, bref, pour tout ce qui est indispensable, mais toute sortie qui ne sera pas justifiée pourra être sanctionnée par une amende de 135 euros et en cas de récidive de 1500 euros. L'incertitude maintenant réside dans le degré d'acceptation sociale de ces nouvelles restrictions.
Et cette annonce du couvre-feu a fini de mécontenter les acteurs de la vie culturelle, festive et nocturne. Si Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, a bien confirmé que la prise en charge du chômage partiel à 100% par l'État serait effective pour tous ces secteurs, ça n'a pas empêché les réactions. Les restaurateurs estiment que c'est la fin du service du soir dans leurs établissements. Ils réclament d'être reçus à l'Élysée pour parler de nouvelles mesures. Nous y reviendrons dans le journal de 8. Autre mesure annoncée par le chef de l'État, une aide ponctuelle de 150 euros auxquels s'ajouteront 100 euros par enfant. Elle sera versée pendant les 6 semaines qui viennent aux bénéficiaires du RSA et à ceux qui perçoivent les APL. Une aide semblable avait été versée au printemps pour justifier ce choix en faveur notamment des plus jeunes. Emmanuel Macron a affirmé préférer une aide exceptionnelle massive plutôt qu'une augmentation des minima sociaux que réclament pourtant les associations de lutte contre la précarité. Nous sommes dans la deuxième vague, a déclaré hier le président, et de fait tous les chiffres semblent le confirmer. D'ailleurs, une nouvelle salve d'indicateurs chiffrés de l'évolution de la maladie en France paraissait au moment où s'exprimait Emmanuel Macron. Arnaud Rozac nous en fait la synthèse.
tous les indicateurs sont dans le rouge. Le président l'a dit, le virus repart, il recircule très rapidement et on le voit très bien avec le taux de positivité des tests qui vient de dépasser les 12%. Le taux d'incidence, lui aussi, est très élevé. À la mi-juin, la France comptait seulement 4 cas positifs au Covid pour 100 000 habitants, mais aujourd'hui, nous en sommes à 176. L'un des chiffres les plus impressionnants, c'est celui des nouveaux cas confirmés. Santé publique France en compte plus de 22 000 ces dernières 24 heures. C'est beaucoup trop élevé pour le gouvernement. Emmanuel Macron veut redescendre entre 3 et 5 000 nouveaux cas par jour pour reprendre, dit-il, le contrôle de l'épidémie. En ce qui concerne le nombre de morts du coronavirus dans le pays, eh bien la barre des 33 000 victimes a été dépassée hier avec 104 nouveaux morts recensés. Enfin, dans les hôpitaux, la situation est critique. Le président a rappelé que les services de réanimation sont sous pression. Exemple, en Seine-Saint-Denis, où 3/4 des lits de réanimation sont occupés à l'heure actuelle par des patients Covid.
Et justement, une partie des soignants sera en grève ce jeudi pour réclamer des embauches massives dans les hôpitaux publics et des augmentations de salaires. Ils se disent particulièrement découragés par les résultats du Ségur de la Santé qui a débouché sur une revalorisation salariale moitié moins importante que ce qu'ils espéraient et des embauches qu'ils estiment bien trop faibles. Un appel à cesser le travail est lancé par la CGT, Sud Santé Sociaux, la CFE-CGC ou encore le collectif Interurgence. En Biélorussie, les manifestations continuent malgré une répression de plus en plus dure. Lundi, ils étaient près de 20 000 à battre le pavé à Minsk, la capitale. Mardi, c'était les maires et les grands-mères biélorusses qui organisaient des chaînes de solidarité dans les quartiers de la capitale. Et à chaque fois, des arrestations et de plus en plus souvent des violences policières. C'est un reportage à Minsk de notre envoyé spécial Eric Biegala avec Théodore Katim.
Olia, jeune documentariste, est de presque toutes les manifestations depuis la mi-août et elle confirme, la répression est de plus en plus dure.
Il y a une escalade de la violence. Nous, on s'est retrouvés coincés par les policiers contre un mur avec seulement nos parapluies comme protection contre ces types. Ça faisait vraiment peur. Après, j'ai vu pas mal de brutalité contre d'autres manifestants.
Beaucoup d'autres jeunes activistes estiment d'ailleurs que ce durcissement des pratiques policières n'est rien d'autre qu'une provocation. Pour Enadzi, ces brutalités ne décourageront pourtant personne.
La violence, ça ne marchera pas, ni de leur côté, ni d'une autre. On a bien compris qu'on n'arriverait à rien si on se mettait à les imiter.
Le ministre de l'Intérieur d'Alexandre Loukachenko a pourtant menacé de faire tirer à balles réelles sur les manifestants. Olia redoute la chose.
On espère qu'ils n'en viendront pas à ça, mais on y pense, c'est vrai. Les gens ont peur et en même temps, on sait très bien que si on s'arrête de manifester maintenant, on aura tout perdu. Et on n'est pas encore prêt à quitter nos positions.
Les positions de l'opposition, c'est la rue. La prochaine marche d'importance, ce sera celle des femmes ce samedi, comme tous les samedis, depuis le scrutin du 9 août.
Eric Biegala. En Thaïlande également, les manifestations reprennent et la répression continue. Arrestation des leaders, interdiction des rassemblements de 5 personnes et plus, interdiction des messages en ligne. Le gouvernement thaïlandais a durci le ton face au mouvement de contestation. Les manifestants réclament le départ du Premier ministre au pouvoir depuis un coup d'État en 2014, ainsi qu'une modification de la Constitution, mise en place en 2017 sous la junte et très favorable à l'armée. La situation en Thaïlande, ce sera l'objet de la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h35. Un conseil européen débute aujourd'hui à Bruxelles et il y sera question de Brexit, même si aucune décision majeure ne devrait être prise à l'issue. On rappelle qu'aucun accord n'a encore été trouvé. Les négociations entre Bruxelles et Londres patinent depuis des mois. Le Brexit, c'est pourtant à la fin de l'année. Damian Green est député conservateur du Kent, un comté qui se situe entre Londres et la Manche. Il voit défiler chaque jour plus de 7000 camions qui transitent depuis la France. Ashford, une ville du Kent, devrait accueillir une zone de douane où plus de 2000 poids lourds pourraient être accueillis après le 1er janvier. Et cela inquiète les électeurs de Damian Green, donc cet élu de la majorité, interrogé par Richard Place.
Nous ferions mieux de quitter l'Europe avec un accord. J'ai toujours eu et je continue d'entretenir des relations amicales avec nos voisins, les Français en particulier. Nous devons conserver ces bonnes relations même une fois que nous serons en dehors de l'Union européenne. Je fais confiance à notre administration. Elle fait le maximum, je n'ai aucun doute. À côté de ce parking pour poids lourds, de cette zone de douane, j'ai convaincu les autorités de planter de nouveaux arbres, de créer une barrière verte entre les camions et les maisons des riverains. C'est notre intention actuellement et j'ai bien l'intention de m'y tenir dans les deux prochaines années.
Le Brexit en ligne de mire, le reportage à Ashford dans le Kent. Ce sera le reportage de la rédaction tout à l'heure à 7h24, signé Richard Place. On termine avec un mot de météo et une journée qui s'annonce maussade. Ciel chargé et faible pluie, de la neige sur les reliefs. Les températures minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés en général, 7 à 12 degrés en bord de Méditerranée. Au plus chaud, comptez entre 9 et 15 degrés du nord au sud, 15 à 18 dans le sud-est cet après-midi. 6h et bientôt 40 minutes sur France Culture, c'est le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne Lorchouin.
Hier, vous évoquiez la perte de légitimité du modèle démocratique avec la crise de la représentation et la montée de l'abstention. Alors aujourd'hui, même question, mais sous un angle plus psychologique.
Oui, oui, oui. Les éditions Sciences Humaines sortent aujourd'hui un ouvrage collectif sous la direction de Jean-François Marmion, La psychologie de la connerie en politique. Vaste programme, dirait l'autre. Et pourtant, s'il est bien question de politique, la connerie y figure en quelque sorte par défaut. Non pas qu'elle soit consubstantielle à l'art de gouverner ou de se faire élire. La présentation nous explique que le livre n'est ni un bêtisier, ni une énième entreprise de dénigrement systématique de la politique, mais un ensemble de réflexions sur la responsabilité des gouvernants, des électeurs et des médias dans la crise de confiance à l'égard du pouvoir. Christian Delporte, par exemple, y évoque la langue de bois, une expression d'abord utilisée pour dénigrer le discours officiel dans le monde communiste. Dans la France démocratique, elle relève du leurre discursif pour cacher la vacuité des idées, l'absence de réponse à des questions légitimes, la peur de l'impopularité. L'historien, spécialiste des médias, passe en revue les différentes figures de style qui fleurissent cette rhétorique inusable, formules stéréotypées, assertions immobiles, euphémismes, tautologies, oxymores qui permettent d'entendre tout et son contraire, comme l'inimitable soupçon avéré de Christophe Castaner à propos du racisme et des violences policières, la véridiction du soupçon devant conduire, selon le ministre, à des mesures de suspension. La novlangue offre également de bons exemples de langue de bois, en particulier dans sa forme envahissante issue du management, flexibilité à traduire par précarisation, plan de sauvegarde de l'emploi pour licenciement massif. Les éléments de langage sont également une source inépuisable de langue inifugée, appuyée par des techniques comme celle du disque rayé ou encore celle du signal lumineux. On avertit de l'importance de ce qu'on va dire et du coup, après ce signal purement phatique, allô, le reste est secondaire. Cécile Alduy, qui a tant exploré les mots en politique, montre comment la parole politique adopte les stratégies du discours publicitaire. Le problème, dit-elle, n'est pas tant le lexique que la pensée. Le discours se fait slogan, hashtag ou phrase choc plutôt que déroulement d'un raisonnement. Le parler vrai des populistes est du même ordre, l'annonce performative, un message qui se suffit à lui-même comme contenu politique, et consonne avec antisystème, incorruptible ou plus sommairement, j'ai raison. Tout ça ne dispense pas d'une bonne définition de la connerie, laquelle est une nébuleuse sémantique et, comme le suggère l'expression ultime de connerie insondable, un puits sans fond. Alors partons de la surface, l'expression orale de la connerie ainsi décrite par Georges Picard dans son essai éponyme. Ce que disent les cons, ils ne le savent pas eux-mêmes, c'est leur sauvegarde. La parole du con, sans être libérée du sens, ne s'astreint pas à l'exactitude. Crécelle, à vocation fatigue, destinée à repousser le silence dans les coins, le con s'accroche au lieu commun comme un trapéziste sous à son filin. Il agrippe la main courante des phrases toutes faites et ne lâche plus. Contre lui, la légitime défense est un piège car à tenter de le raisonner, on entre dans son jeu et court le risque d'apparaître comme son autre symétrique. C'est l'effet miroir. Surtout si le con se présente comme un champion de l'anticonformisme, un héros de la lutte contre le politiquement correct, notre nouveau point Godwin. On se souvient de la belle une de Charlie Hebdo signée Cabu montrant le prophète, accablé, débordé par les intégristes, et qui soupirait, c'est dur d'être aimé par des cons. Au procès des attentats de janvier 2015, Yannick Enel promène sa plume alerte et son regard pointu. Au 31e jour, c'est, je cite, la tristesse et la connerie. La tristesse, c'est le récit d'un prévenu qui brûle ses dernières cartouches et s'enfonce dans le déni de soi et de tout. La connerie, c'est le témoignage de celui qui vient répéter qu'avec les caricatures de Mahomet, il l'avait bien cherché. Commentaire de l'écrivain greffier en situation. Je cite, la connerie est criminelle, elle confond tout, elle justifie n'importe quoi. Le crime, c'est l'absence de pensée. Oser dire qu'on peut tuer des dessinateurs et des écrivains parce qu'avec leurs mots et leurs traits, ils l'ont bien cherché, relève juste de la plus ignoble des imbécilités. La justice sert sans doute à cela, en cherchant la vérité, en tranchant dans les ténèbres, elle nous aide très simplement à discerner la connerie, à révéler les appréciations les plus ineptes, à comprendre combien la stupidité conduit au crime. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacan.
Bonjour.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, la lutte contre le blanchiment au Vatican.
Oui, le Vatican a publié ce samedi un décret qui donne de nouvelles prérogatives à ce qu'on appelle l'autorité d'intelligence financière, une sorte de police financière du Saint-Siège, et qui va pouvoir désormais mettre son nez dans à peu près toutes les structures, tous les types de biens et pas seulement les comptes de ceux qui lui sont liés. En octobre 2013, déjà quelques mois après l'élection du pape François qui voulait chasser les marchands du temple, une loi avait été promulguée sur la transparence et le contrôle des finances vaticanes qui en manquaient jusque-là sérieusement. Alors il y a deux jours encore, des experts anti-blanchiment du Conseil de l'Europe étaient en tournée d'inspection au Vatican, passant en revue toutes les structures du plus petit État du monde, de la secrétaire d'État au dicastère, en passant par les académies pontificales, comme vous le racontez dans votre article d'hier, Lou Bémont. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en direct de Rome où vous êtes envoyé spécial permanent du journal La Croix. Alors en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et plus globalement contre l'opacité des finances du Vatican, beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. On va les détailler l'une après l'autre. D'abord l'éviction fin septembre du cardinal Angelo Becciu. Qui était-il? Qu'est-ce qu'on lui reproche?
Alors en fait, Angelo Becciu, c'est un cardinal qui a été très puissant dans l'Église catholique, qui a été pendant plusieurs années le substitut, c'est-à-dire le numéro 3 du Vatican, qui avait en particulier en charge toutes les affaires financières. Et le 24 septembre dernier, il a été convoqué par le pape François et il a été mis à pied de manière assez inattendue et assez... Brutal. Même dans ce monde feutré qu'est le Vatican. Et ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir d'une part détourné de l'argent envers ses frères et d'autre part d'avoir commandité un certain nombre de placements financiers hasardeux, notamment à Londres.
Notamment aussi dans la société Hertz, l'entreprise américaine de location de voitures, qui avait fait quand même défaut sur sa dette en mai dernier. L'investissement, je crois, date d'avant, mais en tout cas, il a pris de l'argent qui provenait de dons pour les pauvres pour les investir dans la dette de la société Hertz, ce qui est quand même intriguant.
Voilà, en fait, toute la question, c'est la question du placement financier et des placements financiers du Saint-Siège. Et effectivement, sous l'autorité du cardinal Becciu, ont été faits un certain nombre d'investissements, dont de la spéculation sur de la dette ou sur des faillites d'entreprises, notamment comme Hertz. Et effectivement, cet argent provient notamment du denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire de l'argent qui est destiné à aider les pauvres.
Bah, c'est ce même cardinal dont on a découvert qu'il avait investi 110 millions d'euros dans des immeubles de luxe à Londres, 110 millions donc qui n'étaient pas les siens. Autre mesure prise récemment, la nomination d'un nouveau juge au tribunal du Vatican avec un CV intéressant pour le sujet qui nous préoccupe ce matin.
Voilà, absolument. Il y a quelques jours, donc ça c'était même quelques jours, le lendemain de l'éviction du cardinal Becciu, le Vatican a annoncé le renforcement de l'équipe du tribunal du Vatican. Donc le tribunal du Vatican, c'est un tribunal local, enfin c'est le tribunal national du Vatican, qui est le tribunal de l'État du Vatican, et qui a annoncé l'arrivée d'un nouvel expert spécialisé dans le droit commercial et notamment sur tout ce qui concerne la gestion des marchés publics. qui est l'une des questions qui est importante et que le pape cherche ces derniers mois à réguler de manière très forte.
Voilà, parce que sur les marchés publics ont été découverts récemment à l'occasion d'enquêtes, à la fois des surfacturations de fournisseurs, du favoritisme dans les appels d'offres, des factures au contraire qui baissent de moitié, avec pour exemple cité récemment la crèche de la place Saint-Pierre, et je parle bien de la crèche avec le petit Jésus et ses 100 tons de plus de 2 mètres de haut, mais à chaque fois, en échange de quoi? Est-ce qu'on a su si ceux qui au Saint-Siège agissaient ainsi recevaient des gratifications en retour?
Alors, il y a à la fois, à l'évidence, une forme de naïveté. Il y a aussi pas mal de jeux d'intermédiaires qui tournent autour du Saint-Siège. Et l'affaire Bechou révèle aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires et à Rome et à Londres qui aujourd'hui sont mis en cause dans ces affaires opaques. Et puis, il y a évidemment des liens de nature mafieuse qui sont présents au Saint-Siège depuis quelques années. Et aujourd'hui, que le pape cherche à apuré de manière forte et définitive.
Même le président de l'autorité de l'information financière, qui est l'institution financière compétente au Vatican, a convenu dans un entretien récent que les flux qui passent par la banque du Vatican peuvent parfois découler d'activités illégales et ensuite être nettoyés ou destinés à semer la terreur. Est-ce que les liens entre la banque du Vatican et la mafia, notamment, ou des groupes terroristes, ont été avérés à un moment? Est-ce qu'il y a des éléments tangibles?
Alors, il y a tout à fait des éléments tangibles, en particulier pendant les années de plomb, donc c'est cette période qui s'étend de la fin des années 60 aux années 80. Et effectivement, ce sont des années durant lesquelles est à la tête du Vatican un homme qui s'appelle Michele Sindona, entre 69 et 89, et qui a un certain nombre de liens avec les milieux mafieux italo-américains. Il se trouve que pendant cette période, il y a un certain nombre de personnages, il y a un certain nombre d'affaires qui éclatent, en particulier la faillite de la banque milanaise Ambrosiano,
en 82.
Dont le président, exactement, en 82, dont le président est retrouvé pendu sous un pont, et dont on découvre après que ce meurtre a été commandité par les milieux mafieux. Donc voilà, effectivement, il y a un certain nombre d'affaires, de liens avec la mafia qui sont vraiment avéré, en particulier pendant ces années de plomb qu'a traversé l'Italie.
Raconté notamment par le parrain 3, l'affaire de la banque Banco Ambrosiano, ce décret qui a été publié samedi, qui doit donc donner suite ou transformer une loi qui datait déjà de 2013, laquelle donnait déjà plus de pouvoir à la police financière du Vatican. Qu'est-ce que ce décret doit réformer, doit faire avancer, doit améliorer?
Alors, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la création de l'autorité d'intelligence financière dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, c'est fin 2010, début 2011 par Benoît XVI, qui prend vraiment conscience qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias. En 2013, cette autorité est renforcée et aujourd'hui, on est dans ce mouvement qui permet d'élargir encore plus les autorités de ce gendarme financier, si on peut dire, du Saint-Siège. Parmi les mesures qui ont été prises samedi, on peut citer deux choses. D'une part, l'autorité qui est donnée au tribunal du Saint-Siège, au tribunal du Vatican, de mener des enquêtes dans le champ financier, ce qui n'était pas le cas avant, avec des vrais pouvoirs d'enquête, des vrais pouvoirs d'investigation. Et d'autre part, l'autorisation et même la demande qui est faite à l'autorité d'intelligence financière du Vatican de créer un fichier central qui va recenser le nom de toutes les personnes et toutes les institutions détenant des comptes et des coffres-forts à la Banque du Vatican. Et ces données pourront être consultées par les autorités financières des autres pays. C'est un énorme changement par rapport à un système qui était, il y a quelques années encore, très opaque. Il y a quelques années, quand le pape François est arrivé, eh bien, nul n'était capable de lui dire exactement le nombre de comptes la Banque du Vatican. Donc, un système extrêmement opaque.
Et c'était une banque qui autorisait aussi tous ceux qui avaient un compte de transférer des sommes importantes à des tiers sans aucun contrôle particulier. Mais donc, les banques qui ont reçu l'argent de ces transferts sont aussi coupables de ne pas avoir mieux vérifié. Mais il y a eu, quoi qu'il en soit, des affaires, des enquêtes. Il y a eu souvent des sommes considérables gelées aussi au sein de la Banque du Vatican pour prévenir certains, est-ce qu'il faut dire crimes? On n'en sait rien, mais en tout cas, certains mouvements de fonds illégaux, mais aucune affaire pénale n'a abouti à une à un procès devant le tribunal du Vatican. Par exemple, il n'y a jamais eu de procès sur ces affaires financières.
Alors, il n'y a jamais eu de procès sur ces affaires financières, en tout cas interne au tribunal du Vatican, effectivement. C'est d'ailleurs ce qu'ont dénoncé les inspecteurs du Conseil de l'Europe de Monival, dont vous parliez tout à l'heure, mais qui avaient fait une précédente tournée d'inspection il y a quelques années. Ils en sont à leur quatrième tournée. Et effectivement, dans leur dernier rapport, ils soulignaient qu'il y avait à la fois des progrès dans la prise de conscience de la gravité d'un certain nombre d'actes, mais en même temps qu'aucun procès n'avait abouti à une condamnation en matière financière. Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'avec l'élargissement des compétences du tribunal et notamment de pouvoir d'enquête, il va y avoir prochainement, et notamment sans doute autour du cardinal Becciu, soit lui, soit son entourage, soit ses collaborateurs, l'ouverture d'un procès vraiment sur ses affaires financières au tribunal du Vatican.
Alors quelle résistance ces réformes ont rencontré? Déjà, qui est chargé par le pape de mettre le nez dans les comptes du Vatican et quelle résistance ça a créé ou rencontré?
Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont été mis en place par le pape François pour assainir le système, dont un jésuite qui s'appelle le père Guerrero, qui est arrivé il y a quelques mois au Vatican et qui est chargé de penser la réforme financière du Saint-Siège. Mais c'est vraiment une volonté personnelle du pape François de mettre fin à ces affaires qui, quand même, en 2013, ont joué un rôle dans le départ du pape Benoît XVI et dans sa renonciation de ces affaires qui avaient été dévoilées avec ce qu'on a appelé à l'époque Vatilix 1 et Vatilix 2, avec d'importantes fuites de documents. Il y a des résistances internes aujourd'hui qui sont fortes, voire très fortes, d'un certain nombre de gens qui n'acceptent pas la réforme, qui n'acceptent pas le fait que le pape, qui est toujours perçu par un certain nombre de gens au Vatican comme quelqu'un venant de l'extérieur, puisque c'est pas quelqu'un qui est issu de la curie, c'est quelqu'un qui est issu du terrain, qui a passé sa vie en Amérique latine. Et donc il y a une résistance qui est due au sentiment que ce pape qui finalement vient de l'extérieur fait trop, s'y prend de la mauvaise façon.
Merci beaucoup Lou Bémond d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondant pour le journal La Croix à Rome. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Hypnose au musée d'art de Nantes. Des expériences de Mesmer ou de Charcot à l'hypnose contemporaine, en passant par les œuvres de Courbet, Dali ou Rodin, découvrez une histoire culturelle de l'hypnose et les liens qu'elle continue de tisser avec les pratiques artistiques. En écho à ce parcours, le célèbre plasticien vidéaste Tony Ursler vous invite au cœur d'une œuvre immersive et vous propose une expérience hypnotique hors du commun. Hypnose au musée d'art de Nantes, du 16 octobre au 31 janvier. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour déjà, Guillaume Erner. Oui, déjà, ça y est, c'est à vous. C'est votre humeur du jour, Guillaume. Vie ma vie de matinalier.
Bah oui, c'est un peu le sens des mesures du chef de l'État. Si vous cherchez à savoir quelles sont les conséquences donc de ce couvre-feu à 21h, hein, celui qui va être imposé en Ile-de-France dans plusieurs métropoles à partir de samedi, eh ben pour le savoir, c'est assez simple, Julie, vous savez bien, de toute façon, vous allez dans le troisième bureau à gauche, hein, c'est ce qu'on appelle à France Culture le bocal. Alors là, vous trouverez Anne-Laure Chouin, Catherine Dutu, différentes personnes. Pour elles, terminer de dîner bien avant 21h, c'est leur hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie du matinalier. Et c'est une excellente nouvelle hein, pour nous, je veux dire, que la France se cale enfin sur nos horaires. D'ailleurs, si Emmanuel Macron ne nous avait pas averti que les restaurants allaient devoir fermer à 21h dans les zones concernées, il est probable que personne au matin de France Culture s'en serait rendu compte. Hein. Quelques reprises, je sais bien, hein, on m'en a parlé. Il paraît qu'il y a une vie après 21h. mais en fait, j'ai jamais vérifié. Non, franchement, ça nous ferait plaisir de savoir que vous allez adopter enfin le même biorhythme que nous. Plus la peine de vous expliquer que 20h, ça fait tard pour dîner, qu'il vaut mieux manger, je sais pas, à 19h30 pour la digestion, pas de camomille, ça existe, l'alcool, tout ça, bon, je préfère pas vous en parler. Une histoire, et au lit, extinction des feux vers 21h30, bref, même votre fille de 7 ans se moque de vous. Alors évidemment, à première vue, cette perspective peut vous paraître peu attirante, hein, même si la nation tout entière a décidé d'être solidaire avec les matinaliers de France, mais comme l'a dit Emmanuel Macron, il faut reprendre le contrôle, arrêter ces soirées absurdes, en finir avec la vie sociale, et sans toucher toutefois la vie économique. Bref, vous allez faire comme nous, boulot, dodo tôt, les courses, hein, la petite santé, si vous voulez, je sais pas, vous distraire, vous irez chez le médecin, et puis c'est tout. Dans 6 semaines, si ça fonctionne, je propose qu'on pérennise ce mode de fonctionnement, un peu comme les coronapistes à Paris, hein, tout le monde dit à 18h, le 20h ça sera à 18h30 maximum, et puis à 3h30, vous serez comme nous, frais comme des gardons pour aller travailler. Fut un temps où Nicolas Sarkozy rendait hommage à la France qui se lève tôt. Ici, au matin de France Culture, nous remercions Emmanuel Macron de nous soutenir, nous, la France qui se couche tôt.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Allez, bonne nuit. Non, c'est le titre de Libération. Emmanuel Macron a annoncé donc hier soir un couvre-feu pour l'Île-de-France et 8 métropoles entre 21h et 6h du matin. On va en parler aux environs de 7h40 avec Christian Salmon. Il est écrivain essayiste et il publie La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque aux éditions Les liens qui libèrent. En attendant, il est 7h et en fait, c'est pas bonne nuit, c'est bon réveil que je dois vous dire.